suppression des océans, mers, fleuves et en général des différentes pièces d'eau qui garnissent la surface du globe. Moi, dit une dame avec un accent anglais, je visitais le Rensselaer, c'est un magnifique bateau. Suit la description détaillée de l'impérial bâtiment. Tous dans le wagon, nous écoutions la dame, n'épargnant aucun effort pour donner à nos physionomies l'apparence de l'intérêt le plus passionné. Seul, dans un coin, un monsieur âgé ne semblait goûter aucun plaisir aux détails de cette tudesque et flottante splendeur. Bientôt même il perdit patience, haussa les épaules et grommela « Des bateaux, oh oui, parlons-en. Quelque chose de propre, les bateaux. Et pourquoi ça sort-il? Je vous le demande un peu. » Pardon, monsieur, l'interrompis-je poliment. Les bateaux, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour aller sur l'eau. Pardon vous-même, répliqua le vieux monsieur. J'ai trouvé mieux que cela, moi qui vous parle. Mieux que des bateaux pour aller sur l'eau? Oui, monsieur, pour aller sur l'eau. Ah, par exemple, je ne suis pas curieux, mais je voudrais bien savoir. Oh, il ne tient qu'à vous, monsieur. Si vous voulez me faire l'honneur de venir chez moi, je vous ferai assister à de curieuses expériences. Et il me tendit sa carte, duc de Pauvrelieu, château de Pauvrelieu, près Salbec en Ange. J'avais beaucoup entendu signaler ce vieux gentilhomme comme un fier original, mais c'est la première fois que je me trouvais en sa présence. Je n'eus garde, comme vous le pensez bien, de manquer à son alléchante invitation. Le domaine de Pauvrelieu, comme tous les domaines qui appartiennent à des gens lotis d'une idée fixe, est un domaine fort négligé. De l'herbe poussait mille les allées, et les vieux arbres séculaires ne perdraient rien à être ébranchés en de plus fréquents laps. Nous étions arrivés au fond du parc, devant une assez grande surface plane, dont je ne m'expliquais pas tout d'abord la nature. Un immense manège, eût-on dit, un manège à air libre et couvert d'une forte couche de sciure de bois. Qu'est-ce que c'est que ça, devrez-vous, me demanda brusquement mon hôte. Oh, cherchez pas, vous ne trouveriez pas. C'est un étang. Un étang? Oh, un étang sans eau, alors. Un étang plein d'eau, au contraire, mais dont l'eau est recouverte d'une couche de liège entièrement, grossièrement pulvérisée. Ah, oui, je commence à comprendre. Cette couche de liège pulvérisée à une épaisseur de 30 cm, épaisseur suffisante pour supporter non seulement le passage des gens, mais encore la circulation des voitures. Bon, c'est à peine croyable. L'expérience, elle est à votre portée. En effet, nous nous acheminâmes sur le liège du bonhomme, et je constatai que nous n'enfoncions nullement. On avait la sensation de marcher sur un tapis élastique, sur un matelas de caoutchouc, et on n'enfonçait pas. Le duc de Pauvrelieu enfourcha un vieux tricycle et fit plusieurs tours sur la pièce d'eau. Même résultat. Eh bien, triompha le bonhomme, êtes-vous convaincu maintenant? Car ce qu'on a fait sur un étang, rien n'empêche de le réaliser en grand, sur la mer. Ah, permettez. Oh, je prévois vos objections et je vais les démolir l'une après l'autre, ainsi que le ferait un tireur habile pour les pipes d'un établissement forain. Et en effet, ce diable d'inventeur me convainquit totalement. Seulement, dame, il en faudrait du liège pour couvrir toute la surface liquide du globe. Il en faudrait. Le duc a calculé qu'en mettant de la bonne volonté dans tous les pays civilisés de la Terre, en contraignant tous les citoyens du monde entier à cultiver du liège dans leur propriété, sur le bord des routes, partout enfin où peut pousser le liège, il suffirait d'une vingtaine d'années pour arriver à un résultat définitif. Mais aussi, quel résultat ? Plus de marines, plus de ces coûteux et fragiles bateaux à la merci d'un coup de vent ou d'une collision. Et le railway direct entre Paris et New York, 3 jours et demi de voyage. Je n'insiste pas sur tous les progrès, sur tous les avantages qu'apporterait à l'humanité la réussite de cette magnifique entreprise. Malheureusement, l'Angleterre est là. L'Angleterre, moins disposée que jamais à négliger sa toute-puissance maritime. L'Angleterre égoïste et mercantile. L'Angleterre, en un mot, toute prête à être ranglée dans un œuf, l'idée splendide et civilisatrice du duc de Pauvrelieu. Post-scriptum. Un monsieur qui s'intitule ingénieur international m'adresse une lettre en laquelle il reproche aigrement au duc de Pauvrelieu, l'auteur de ce projet, de s'être inspiré d'une idée à lui, idée qu'il développa jadis dans les journaux spéciaux. Il s'agit des routes flottantes, dont le souvenir est encore vivace, c'est l'ingénieur international qui l'affirme, chez toutes les personnes qui s'occupent sérieusement, sérieusement et souligné, des progrès de l'humanité. Comme son nom l'indique, la route flottante est une longue queue de solides radeaux mis bout à bout, bouillés en mer au moyen d'ancres et de chaînes à ressort. Ces chaînes à ressort permettent à nos radeaux de se disjoindre momentanément pour donner passage aux bateaux, après quoi les 10 bateaux n'ont plus qu'à se raccomboter. De forts bourrelets ad hoc atténuent les inconvénients du heurt et du frottage. L'ingénieur international affirme que rien n'est plus pratique que son idée, et dans un post-scriptum véritablement touchant, il m'offre, si je veux préconiser son entreprise et lui procurer, par moi ou mes amis, la 10 millions nécessaires à établir une route flottante Calais-Douvres, il m'offre, dis-je, une forte part dans les bénéfices. Avis aux amateurs. En plus des énormes profits que rapportera l'affaire, messieurs les actionnaires auront droit à une carte de circulation sur les routes flottantes, pour eux et pour leur famille. Avouez que c'est tentant. D'autres communications me sont parvenues sur le même sujet. J'y reviendrai. La chose en vaut la peine.